Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Absolutely Fabulous. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses.
Lights, models, guest list. Just do your best, darling.
Moi, jusqu'alors, je connaissais les boissons multifruits, les jeux multijoueurs, les questionnaires multichoix, mais j'ai dû me rendre à l'évidence, il existe une série multi-vie. C'est Absolutely Fabulous. La première vie d'Absolutely Fabulous consiste en trois saisons, de novembre 1992 jusqu'en mai 1995, avec donc trois fois six épisodes. Et une fin dans le 18e, qui a d'ailleurs pour titre La Fin, et nous montre le futur des personnages. Donc, La Fin. Puis, il y a un retour, l'année suivante, en novembre 1996, avec un épisode spécial en deux parties, The Last Shout, le dernier cri. Donc, fin et clôture à nouveau de la série. Au même moment, aux États-Unis, la sitcom Roseanne accueille dans un épisode Patsy et Edina, les deux personnages de la série.
Oh, meet Eddie, Pat.
Hello.
This is Roseanne and Jackie.
Hello.
Oh, hey, you say you're from a foreign country.
We're from England.
Oh.
En fait, Roseanne Barr avait pour projet d'adapter la série pour les États-Unis avec Carrie Fisher et Barbara Carrera. Mais en 2000, la série se réincarne dans un nouveau projet, Mirror Ball, qui réunit tous ses interprètes, mais dans de nouveaux rôles. Vivienne, Jackie, Freda et Yita, des actrices pathétiquement à la recherche d'un rôle et qui accumulent les auditions déprimantes.
Isn't it rich? Are we okay?
Cet épisode pilote de Mirror Ball est vraiment réussi, mais il restera sans suite, car il contribue à redonner plutôt envie de revenir à Absolutely Fabulous. C'est donc en 2001 que la série renaît avec une saison de 6 nouveaux épisodes. Au même moment en France, Gabriel Agion décide de faire renaître lui aussi Absolutely Fabulous, sous le titre de « Absolument Fabuleux », avec Josiane Balasco et Nathalie Baye, et la présence de Chantal Goya. En Grande-Bretagne, c'est un épisode spécial de la série qui a été produit fin 2002. Et à la rentrée 2003, c'est encore une saison de 6 épisodes qui est produite. Un an plus tard, en décembre 2004, un nouvel épisode spécial est diffusé. Cette fois-ci, il conclut la série. Les deux héroïnes, héroïne, c'est vraiment un adjectif qui leur convient bien, étant devenues des sans-domicile fixe. La série va cependant encore renaître. Mais c'est aux États-Unis que ça se passe, en 2009, avec cette fois-ci bel et bien une adaptation américaine pour la chaîne Fox, avec Catherine Hahn et Kristen Johnson, la Kristen Johnson de Troisième Planète à partir du Soleil.
Patsy, where are you? I need you here.
I'm on my way. What's wrong, darling? Where's the magazine?
Mais ce pilote ne sera pas retenu. Contre toute attente, 7 années plus tard, en 2011, on va prendre le prétexte des 20 ans de la série pour produire 3 nouveaux épisodes. Le premier sera diffusé le jour de Noël, le 25 décembre 2011. Le second, une semaine plus tard, le 1er janvier de la nouvelle année. Et le troisième et dernier, durant l'été 2012. Et là, c'est terminé. Eh ben non, la série va revivre encore. Increvable, je vous dis. En 2015, après avoir mis quelques années à en écrire le scénario, un film est tourné. Et il va sortir en 2016, un film où Edina Monsoon va commettre carrément un meurtre.
J'en ai.
Kate, Kate! Kate! Kate!
Police continue to search the town.
How bad can this be? I mean, you know.
You have killed Kate Moss.
Shit.
Je vous le dis, la série multivie. À croire que de se comporter comme Patsy et Dina, ça rend immortel.
Darling, you are a fabulous, wonderful individual.
Thank you.
And remember, I've known you longer than your daughter.
Champers all right for you, Pat. Lovely, sweetie.
Should we finish off the beluga, or should we have some smoked salmon and nibbly things?
Or whatever, sweetie.
Edina Monsoon et Patricia Stone sont deux personnes coincées à tout jamais dans les années 60-70. Alors elles sont coincées à tous les niveaux. Elles ne sont pas sorties, n'ont pas mûri, et tentent de se persuader qu'elles n'ont pas vieilli non plus. L'une, Edina, est PR, Public Relations, relations publiques quoi, attachée de presse si vous voulez. Elle PR des choses, des lieux et des gens, dit-elle. Pour ce faire, elle surfe sur absolument toutes les tendances, les plus superficielles, les plus ahurissantes, du coiffeur organique à l'aromathérapie. Ce n'est pas qu'elle en est sincèrement convaincue, non, mais c'est sa façon, elle, de rester contemporaine alors que tout la raccroche à son idéal de baba cool. L'autre, Patsy, est intoxiquée jusqu'au plus profond de sa moelle osseuse. Anorexique au dernier degré, nymphomane irrécupérable, elle ne vit que pour le sexe. Elle refuse toute réalité à coups de cigarette. Elle achète de la drogue et vide absolument toutes les bouteilles d'alcool qui passent à sa portée. On va l'appeler Patsy, hein, parce que son nom intégral, c'est Eurydice, Colette, Clytemnestra, Dido, Bathsheba, Rabelais, Patricia, Cocteau, Stone. Hein ? Donc on va dire que Patsy, c'est quand même plus court. Dans les années 70, elle changea provisoirement de sexe, mais comme elle le dit après, c'est tombé. Dans une sorte de amicalement vôtre sous acide, c'est ensemble qu'elles ont une capacité de nuisance absolument colossale. Patsy étant le mauvais démon de Edina qui, déjà, ne cherche pas trop à s'assagir au fil du temps. À elles deux, c'est un festival de langues de vipères et de remarques acerbes. Et tout y passe, les stars siliconées, les hommes possessifs, les valeurs morales, les gens qui leur font de l'ombre. Élevées ensemble, elles ne peuvent survivre l'une sans l'autre et peuvent, d'un seul coup, d'un seul, prendre l'avion pour New York rien que pour vérifier et s'acheter une poignée de porte. Ou partir à Marrakech et y vendre leur fille, sans que cela ne pose le moindre problème. Ah oui, parce que, en fait, le problème, c'est elle, la fille d'Edina. Son fils Serge, non, lui, c'est pas un problème, il est loin et puis il est gay. Donc, il est forcément in. Edina est très fière de lui et elle met sur le compte de son homosexualité le fait qu'elle a écouté du Donna Summer pendant sa grossesse. Hein, voilà. Saffron, sa fille, par contre, est la mère que Edina aurait toujours dû être. Intelligente, raisonnable, sincère, posée. Elle peut être séduire un homme et peut être déçue par ce qui s'ensuit, mais rien d'exceptionnel. Elle tente désespérément de ramener sa mère sur le chemin de la décence et de l'honnêteté, mais rien n'y fait. Edina va sans cesse la trahir, la cajoler, l'ignorer, geindre, se plaindre, se lamenter sur son propre sort, sans jamais s'investir dans le sort de sa fille. Encore donc une relation inversée, mère-fille ce coup-ci. Décidément, Alpha bouscule tous les stéréotypes. Enfin, dernier contrepoint de la folie nostalgique d'Edina et de Patsy, c'est la mère d'Edina. Très lucide sur sa fille, mais bienveillante, quoique totalement décalée. Elle prend Twiggy pour Madonna et est persuadée que si on parle de la star française Jeanne Durand, l'équivalent à peine voilé de Jeanne Moreau, c'est du groupe Durand Durand dont il est question. La sitcom ose donc nous montrer des personnages qui sont en permanence totalement défoncés, saouls, titubants, vociférants, gesticulants, totalement hallucinés et définitivement égocentriques. Il n'y a pas de morale, pas de rédemption dans la série. Jamais. Parce que ça serait la trahir. Car tout est totalement assumé et dirigé contre ces personnages vivant justement dans le monde de la superficialité et des apparences. Comme vous l'avez compris, avec ces renaissances régulières, il n'y a pas de cohérence ni de continuité. Mis à part Jane, la fille de Saffron, qu'Edina persiste à appeler Lola. Ah ouais, il y a quand même aussi l'assistante d'Edina, Bubbles. D'apparence complètement incompétente et totalement à l'ouest, elle semble manquer de casse tant ses réactions sont une suite de cris, d'hurlements, de gesticulations et des réactions outrancières. Par contre, par moments, elle semble être, à la grande surprise de toutes, la voix de la vérité, de la raison, de la sincérité. Et son attitude de dingue lui permet de sortir les pires crasses sur sa patronne. Bubbles, c'est Jane Horrocks. Madame Monsoon, c'est la regrettée Dame June Whitfield. Saffron, c'est Julia Sawala. Et enfin, Patsy, c'est John Alumley. Et Edina, c'est Jennifer Saunders. Initialement diffusé sur BBC 2 en novembre 1992, puis passant sur la plus grand public BBC One, la sitcom étonne pour son ton totalement désinhibé, ses remarques acerbes et souvent sa cruauté. Mais souvenez-vous que la BBC, chaîne d'État, a un devoir de produire avec les fonds de la redevance des programmes qui ne soient pas tièdes, qui soient justement impertinents, bien plus que ne pourrait se le permettre une chaîne privée soumise à la publicité et aux pressions des annonceurs. C'est deux ans plus tard, à la rentrée 1994, que la comédie débarque en France, sur Canal+, mais en version française, ce qui plombera clairement son succès chez nous. N'empêche que, pour le lancement, Canal+, avait fait venir les deux stars, et donc la créatrice de la série. Jean-Pierre Dionnet et moi-même, nous nous retrouvions donc face à Jennifer Saunders et à Jonah Lumley. Et par moments, on était même plutôt face à Edina et à Patsy. C'est vous dire. Jennifer, comment avez-vous créé Absolutely Fabulous ? Quelle était votre idée initiale pour une comédie si particulière ?
Particulière. À l'origine, il s'agissait d'un sketch que j'avais écrit avec Dawn Fresh pour une émission qui s'appelle Fresh and Saunders en Grande-Bretagne. Moi, j'étais la mère et elle était ma fille.
You come into Greece with us this year.
I've already told you, Mum. I don't want to go.
Is it because?
Don't.
Is it because?
Don't, Mum.
Is it because you don't want to be seen in a swimsuit, darling? Well, is it?
Mum.
Et puis, je me suis retrouvée sans boulot pendant une longue période et j'ai dû trouver quelque chose pour gagner de l'argent. Alors, j'ai pensé à réécrire ça en une version longue et de redistribuer le rôle de la fille, car Dawn était trop âgée pour le tenir. Et puis, j'ai inventé un autre personnage, la meilleure amie. Vous voyez, c'était vraiment pour avoir du taf.
Aucune n'est politiquement correcte. Vous voulez dire et faire des choses qui ne sont clairement pas politiquement correctes ?
Ce sont les personnages qui impliquent cela. Et puis aussi, il y a tellement de choses dans votre vie, du genre « je déteste ceci, cela, je veux pouvoir fumer, boire et tout ça ». Les gens en ont marre qu'on leur dise comment ils doivent vivre, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et c'est donc une bonne occasion de laisser exprimer un peu de colère.
Et vous aviez Jonah en tête pour le personnage de Patsy depuis le début ?
Je l'ai écrite et puis Johanna pensait que ça lui irait.
On ne s'était jamais croisés avant, mais on m'a envoyé le script et il m'a fait rire. Et très peu de choses me font rire car je n'ai aucun sens de l'humour, hélas. Je l'ai donc lu et j'ai trouvé ça très bon. Je lui ai donc payé une petite somme d'argent et elle m'a encouragé. Délicieux.
Le rôle a changé pour que vous y mettiez un peu de vous-même ?
Non, tout est d'elle. Mais vous savez, tout n'était pas écrit. Jennifer est une très bonne scénariste. Ça m'énerve de devoir dire cela devant elle, mais elle est très très bonne car elle voit comment vous allez incarner le personnage à partir de sa création. Et c'est ce qui se passe avec tous les autres personnages. Je pense qu'on peut dire qu'elle nourrit le personnage avec la façon dont vous l'incarnez.
C'est pour cela que vous avez décidé d'accepter la série ? Parce que...
Elle avait besoin de fric.
J'avais désespérément besoin d'un peu de lumière. Mais mis à part cela, en fait, la vérité est que tous les rôles que j'ai eus étaient politiquement corrects. Purdey n'était ni plus ni moins qu'une femme flic, un agent infiltré. Elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle n'a pas de petite amie. Elle est totalement bonne. Et dans Sapphire and Steel, que je crois que vous ne connaissez pas en France, c'est une extraterrestre, rien d'autre.
Une médium extraterrestre, c'est ça ?
Absolument. Elle est le bien absolu, correct et toujours du côté du bien. Ça a été un tel soulagement pour moi, qui suis une très très vieille actrice, presque à la fin de ma carrière, d'exploser enfin et de ne pas être...
Quelle générosité !
Toujours charmante. C'est bien de ne pas avoir à être charmante et attirante. C'est une grande libération pour les femmes de ne pas avoir à être attirante, parce qu'on en est systématiquement en compétition avec plus belle que toi. Non, soyons honnêtes, quand tu es très 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 belle, tu récupères toujours les rôles les plus ennuyeux. C'était donc très bien de faire cela.
Sans maquillage, une vraie sorcière.
Alors, ça parle de quoi exactement ?
De quoi ça parle ? Ce n'est pas sur quelque chose en particulier. C'est sur la vie, c'est sur la relation entre une mère et la fille d'une mère qu'il a eue dans les années 60. Et vers la fin des années 60, et je ne suis pas si vieille que ça, on leur donnait une liberté absolue. Il n'y avait aucun frein à ce qu'elles pouvaient dire, et tout était gratuit. L'amour, les gâteaux, les fleurs, des entrées aux soirées. Et elles veulent que ça continue comme ça, vivre comme ça, et elles refusent de s'ajuster. Tout ce qu'elles veulent maintenant, c'est avoir de l'argent facile et une vie libre. Et la fille doit faire face à cela. La fille prend donc le rôle de la mère, tout en étant ennuyeuse et sérieuse. Et si elles sont deux, c'est parce qu'elles s'entraident, et chacune soutient les vices de l'autre.
Dans beaucoup de comédies, les enfants, les ados sont toujours ceux qui font des trucs terribles et les parents sont inquiets. Là, c'est entièrement l'opposé. C'est la jeune Safi qui attend anxieusement le retour de sa mère en espérant qu'elle ne rentre pas saoule. C'est une façon différente de voir les choses, mais on ne l'a jamais montré auparavant. Personne ne l'avait fait. Les parents à problème.
Vous êtes basé sur quelqu'un ?
Non, pas vraiment. Je connais des gens qui sont persuadés qu'il s'agit d'eux, ce qui est faux. Non, c'est plutôt basé sur un type de personne. Il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup.
Il y a un peu de vous en elle.
Oui, beaucoup. On a tous ces névroses d'une certaine façon. Tout le monde veut être plus mince, tout le monde veut boire, mais c'est seulement exagéré, c'est caricaturé. Et à nouveau, c'est parce qu'elles sont ensemble que ça fonctionne. C'est OK de fumer un joint ? Oui, oui, darling, OK. C'est d'accord d'être saoul ? Oui, très bien, alors faisons-le.
Alors c'est un peu étrange car on s'attend à ce que je sois comme Patsy et il y a des articles disant que je fume tout le temps, que je bois comme un trou et qu'on me traîne par les pieds et ce n'est pas toujours vrai.
Oui, souvent on te traîne par les cheveux.
Vous vous attendiez à un tel succès ? Je veux dire, depuis le tout premier épisode, vous obtenez des récompenses pour la série ou pour votre interprétation. Vous attendiez à cela ?
On ne s'attend jamais à cela. Ça a été une surprise totale. C'est très agréable, mais la série reste la même.
C'est vraiment parce que nous sommes devenus, dans le monde, plus particulièrement le monde occidental, vraiment très prudents. Vous avez vérifié votre rythme cardiaque ? Arrêtez de fumer, allez courir, ne touchez pas à ces aliments, ne faites pas ceci ou cela. Et tous les gens qui suivent ces recommandations en secret, ils détestent ça. Et d'un seul coup, ils voient des gens qui s'amusent en faisant tout ce qui est mauvais et c'est juste bien. C'est un rire salutaire.
Et puis, c'est une sitcom avec beaucoup d'énergie. Je veux dire que beaucoup de sitcoms actuels vont au rythme américain, qui est un peu le rythme de la vie normale. On a le temps de ramasser les cendriers, de jeter les poubelles. Mais nous, on n'a pas le temps de faire cela. On va plus vite, et je pense que les gens aiment quand ça va un peu plus vite maintenant.
Sous des allures de sitcom révolutionnaire, Absolutely Fabulous est produit dans les mêmes conditions que les comédies de l'époque en Grande-Bretagne, majoritairement en studio et devant un public en live. Et les origines de la série sont en fait très très simples.
On travaillait déjà beaucoup pour la BBC avec une autre série. Et ils m'ont dit que si j'écrivais quelque chose d'autre, ça les intéresserait. Je l'ai donc écrit, ça les intéressait et on l'a fait.
Elle est très 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 populaire, très populaire. Très riche.
Donc la BBC vous connaissait, mais qu'aviez-vous fait avant ?
Exactement. Qu'est-ce qu'elle faisait avant ?
Je n'y crois pas qu'on l'ait amenée avec nous.
Hein ? Que faisais-tu avant, Jennifer ?
Oui, je vais lui dire. Ne me fais pas ce regard.
Des séries futées et très drôles.
Ne me fais pas ce regard, parce que mes séries à moi, elles sont plus récentes. Parce que moi, je suis bien plus jeune. C'est une série qui s'appelait French and Saunders, une série à sketch que je faisais avec une autre fille, très populaire, très drôle. Et on a fait aussi une autre série, les comic strips. Très populaire, très drôle, avec des jeunes dedans. J'ai fait pas mal de séries populaires et drôles avec des jeunes. C'est une télé de jeunes, en quelque sorte.
J'aimerais revenir un peu sur ce comic strip, parce que c'était la grande équipe comique des années 80 qui a apporté quelque chose de neuf à la sitcom. Tout spécialement avec cette comédie comme bottom. Pouvez-vous nous en parler? Parce qu'en France, on ne les connaît pas trop.
C'est une génération de comiques qui ont démarré dans des clubs à faire des stand-up. Puis, on a été embauchés par une chaîne pour écrire des séries ou des émissions et chacun a décollé et a fait sa propre série. Mais c'est un petit groupe de gens.
Ils sont géniaux. Tous étaient très, très brillants, vraiment formidables. Et Jennifer, elle est vraiment excellente. Donc moi, j'étais déjà formidable, et Jennifer aussi, et plus jeune aussi. Il y a des gens qui sont déjà dans une résidence pour personnes âgées, vous savez.
On a entendu parler de vous. On vous a vu quelque part.
J'étais désespérée. Je voulais un rôle. J'ai écrit à Jennifer en lui disant « Par pitié, donnez-moi un rôle dans votre série. Je suis bon marché. » Je ne suis pas chère et disponible. Est-ce que pour les 5 ou 6 prochaines années, pouvez-vous me donner quoi que ce soit ? Elle m'a dit, faites-vous pousser les cheveux.
Joanna, parlons un peu de vos rôles précédents.
Grand Dieu, on est obligé ?
Oui, chérie, je suis une vraie légende, tu sais. Allons-y. Parle-moi de moi.
C'était pas la série avec Diana Rigg ?
Vous gardez un bon souvenir de Chapeau Melon et Bottes de Cuir ?
Chapeau Melon, Bottes de Cuir, wonderful.
Oui, merveilleux. C'était ma toute première chance. Je jouais déjà beaucoup, mais c'était de tout petits rôles. Une réplique, la secrétaire. Puis-je récupérer votre tasse ? Fin du rôle. C'était désespérant. Et c'était là la première grande chance que j'avais. Donc c'était très chouette. C'était il y a longtemps, j'avais 18 ans. Mais c'était super. Wonderful
fun. Quel âge avais-tu ?
J'étais très très jeune, presque trop jeune pour le rôle.
Donc, visiblement, Jennifer, vous n'avez pas engagé Joanna pour ses prestations sur Saphir and Steel ou sur Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
Non, on devait la voir. Elle n'était pas chère. On avait besoin de bosser et de se montrer. On a bâti le rôle sur elle. Et elle est très populaire dans la presse. Ils l'adorent.
C'est vrai.
Ouais, donc de toute façon, je partage la publicité.
Vous aimez le postérieur, bottom ? Alors, là, ça demande une explication. Jean-Pierre ne demande pas à Joanna si elle aime les derrières, hein, mais si elle apprécie une série comme Bottom. Bottom, et son titre donc à double sens et volontairement provocateur, bah c'est une comédie britannique qui a été un triomphe en son temps, menée par Rick Mayall et Adrian Edmondson, interprétant deux colocs vivant dans la déchéance, la crasse, la violence, la vulgarité. Tels des personnages de cartoon, ils passent leur temps à émettre des pets et à se donner des coups entre eux et des coups aussi aux autres. Donc, vous aimez Bottom ?
Ah, non, j'adore. J'ai beaucoup aimé dès que je l'ai découverte, Jennifer, et je trouve que c'est très, très drôle.
Je suis mariée à une moitié du derrière, de Bottom.
Oui, effectivement, tu es une des fesses du derrière. J'adore. C'est un peu une tradition et habituellement, on passe une génération. Malheureusement, ça a passé la mienne. Vous savez, il y a par exemple ces garçons futés et drôles, les Monty Python. Ben, je suis passé à côté. Puis il y a eu les gens du comic strip, futés et drôles. Alors moi, je prends un grappin et je m'accroche soit à ceux de la génération d'avant, soit à ceux de la génération d'après. Je loupe tous ceux actuellement visibles. Mais c'est toujours comme ça. Il y a une génération qui les a oubliés et je voudrais dire à la France, donnez-leur une chance, nom de Dieu.
Was it destiny? I don't know yet. Did you have an inspiration for this? I mean, did you...
Avez-vous eu une source d'inspiration? Je veux dire, une autre sitcom. On parlait de Roseanne, de choses comme ça, pour avoir la structure de base, puis de lancer vos personnages dans une série.
Non, je n'ai pas réellement de vision comme ça. J'ai l'habitude d'écrire des sketchs, des séquences courtes, et donc j'ai tendance à écrire chaque scène de Ad Fab comme un petit sketch. Pour moi, c'est Laurel et Hardy, une pantomime.
Mais c'est vraiment un gros travail ou il y a beaucoup d'impro ?
C'est beaucoup de travail. On ne s'engueule pas, mais c'est beaucoup de boulot, car cela change constamment. Les scènes changent tout le temps.
Donc vous ne suivez pas toujours le texte ?
Le texte ? Quel texte ? Quelquefois, on a des lectures où l'on n'a qu'une feuille de papier. Et ça, c'est pour la moitié d'un épisode. Et Jennifer nous dit, il y aura des dialogues ici et là. Sauf qu'on les découvre une minute avant le tournage.
C'est vrai. C'est un peu léger, quelquefois.
Mais elle change tout le temps. Elle travaille de façon organique. Ça se voit à la manière dont elle est ce soir. C'est une personne organique. Elle aime changer. Il faut que ça sorte.
Oui, oui.
C'est comme ça que tu travailles, ouais.
On a maintenant assez bien saisi ce qui compose la spécificité d'Absolutely Fabulous, son humour outrancier, provocateur et inclassable. Mais il y a aussi des gens dans l'ombre qui contribuent au succès de la comédie. Bob Spears, le réalisateur des Fawlty Towers de John Cleese, John Plowman, le producteur de certaines séries et du film, et la scénariste et comédienne Ruby Wax, qui apparaît au générique comme superviseur des scénarios. Ruby Wax est une humoriste très dérangeante en tant que telle, et sa participation à la série correspond bien à son état d'esprit. J'avais été à sa rencontre en 2003.
Je faisais cette série, The Full Wax, et j'avais vu Joanna Lumley dans une pièce où elle incarnait Imelda Marcos. Et je me suis dit que c'était une performance de star, alors qu'en fait, personne ne se souvenait d'elle. Je me suis donc demandé si elle accepterait de faire un sketch dans mon émission. Je lui ai donc fait faire une vieille starlette qui sniffe de la poudre à récurer et qui met la litière de son chat dans le réfrigérateur. Et tout le monde m'a dit « Comment oses-tu faire cela à Joanna Lumley ?» D'autant que je tournais cela comme si c'était un documentaire. Avec ses cadavres de bouteilles, le bordel, elle a incarné cette personne dingue si brillamment. Cette loser était si drôle qu'elle est devenue Patsy. C'est comme ça que Patsy est née. Et on connaît Jennifer et moi des gens qui sont dans le monde des relations publiques. Elle est devenue la cible idéale et elle a fait AB Fab.
Vous êtes crédité comme superviseur des scripts. Vous écrivez les répliques, donc.
Les répliques, oui. Qui vont bien avec les scènes totalement hilarantes. Et moi, je mets la cerise sur le gâteau. Quelquefois, il y a une cerise. Alors j'en revendique la paternité.
Hi, Patsy Stone. Is your hair on purpose? You know, no more schoolgirls in techno fabrics, no plastics, no micromania.
Careful, honey.
No more cheap tarred looks, no more tarred old Hollywood glamour. Breakfast at Tiffany's. Armani, Klein, Karen.
What? Are you on drugs?
For which character did you like to write?
Vous préférez écrire des répliques pour Patsy ou pour Edina?
Pour Patsy. Parce que vous ne pouvez pas passer à côté. Elle est dingue et vicieuse. J'aime bien. Je n'écris aucun dialogue pour sa fille. Et je ne crois pas avoir jamais écrit pour la grand-mère, parce que c'est très anglais. Je pense que je fais des dialogues dans le style américain avec du rythme. C'est ce qui convient aux répliques cinglantes. C'est cool.
Il reste une chose à élucider concernant cette increvable comédie. Ab Fab prend pour cible les tendances, les excès et la superficialité de notre monde contemporain, mais surtout le monde de la mode. Ruby Wax va clairement nous dire pourquoi cet univers est la cible idéale.
Ah oui, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est de la merde et encore de la merde. Des visages comme des lézards morts et des pinces de crabe qui agrippent les programmes des défilés. On fonce sur toutes les cibles potentielles et en fait, chaque année, ce qu'il y a de bien avec le milieu de la mode, c'est qu'il vous sert sur un plateau tout un paquet de conneries qui peuvent donner lieu à une série comique. On a besoin de cette merde pour pouvoir la modeler. C'est étonnant car chaque saison vous en apporte des nouvelles. C'est la beauté du monde de la mode. On n'a même pas besoin d'inventer.
Si le monde de la mode se prend bien trop au sérieux, plusieurs de ces stars ont suffisamment d'autodérision pour participer à la série dans leur propre rôle. Christian Lacroix, par exemple, ou Stella McCartney, ou même Jean-Paul Gaultier. Mais aussi Naomi Campbell, Kate Moss, Twiggy, Emma Bunton, mais aussi Sacha Distel, Britt Ekland, Marianne Faithfull, Elton John, Whoopi Goldberg, Debbie Harry et puis Lulu. Alors, champagne for Lulu.
Champagne for Lulu.
Si vous voulez revoir Rap Fab, ou pire, si vous souhaitez maintenant découvrir les tribulations de Patty et Dina, bah c'est pas très simple. Les 5 saisons sont sur MyCanal, mais pas les épisodes spéciaux, ni même les 3 derniers épisodes faits à l'occasion du 20e anniversaire. La BBC est toujours très très compliquée dans ses ventes de séries. Il vous reste les coffrets DVD anglais, comme ce Definitive Edition, qui réunit tout, y compris le pilote de Mirror Ball et le sketch de Donald Saunders. Mais c'est en anglais, avec des sous-titres anglais. Allez, scooty scooty darling, n'hésitez pas, vous verrez, c'est fabuleux.
It's fabulous. Good. Thank you.
La semaine prochaine, je vous retrouverai autour de la table ronde. Vous serez un des chevaliers du roi Arthur. Et c'est le roi en personne qui vous parlera. Depuis Kaamelott. Ce podcast est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox et Overcast.